Faut-il s'inquiéter de l'augmentation du prix des matériaux de construction? C'est assez étonnant. C'est une publication, on m'en avait parlé, mais la dame en question, Geneviève, qui écrit sur son Facebook, elle a mis le prix du 2 par 4 par 8 pieds depuis le 18 novembre dernier, puis elle a noté le prix là, semaine après semaine. Le 18 novembre, un 2 par 4, ça coûtait 4,09 $. Le 25 novembre, 4,29 $. Le 3 décembre, 4,39 $. Le 11 janvier, 6,49 $. 6,29 $ le 1er février. Le 15 février, 6,79 $ et le 22 février, 7,10 $. Alors, du 18 novembre au 22 février, le 2 par 4 est passé de 4,10 $ à 7,10 $. On va en reparler demain. C'est assez incroyable. Tu veux te bâtir une maison, t'es bien mieux de commencer à y penser tout de suite ou peut-être à remettre le projet éventuellement. Je vais y revenir demain sur ce sujet-là. Je fais toute la place maintenant à celui qui nous présentait son livre aujourd'hui, Georges Vézina, L'habitant silencieux. Le livre, il est lancé, mais au même moment, le Canadien a la très mauvaise idée de congédier son entraîneur. Alors, il y a comme ce qu'on appelle l'éclipse médiatique. Michael Lalancette, bonjour.
Salut.
Ben, en même temps, écoute, ça te permet peut-être de parler de hockey et de faire la promotion de ton livre. Dis-moi, Dominique Ducharme, toi, le temps où tu couvrais pour TVA Sport, le hockey junior, tu l'as côtoyé un peu?
Oui, ben c'est ça. J'ai couvert la conquête de la Coupe Mémoriale des Moussettes de l'Halifax en 2013 avec Dominique Ducharme comme entraîneur-chef. Je l'ai couvert ensuite de ça avec les Voltigeurs de Drummondville, deux équipes canadiennes juniors au championnat du monde junior, dont la conquête de la médaille d'or. Tu sais, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu à côtoyer pendant quand même plusieurs saisons parce que on lui a donné la chance de diriger des équipes LHJMQ dans les préparations pour le championnat du monde junior, etc. Donc, je le connais bien. Et ben je me réjouis de le voir avoir une chance comme entraîneur-chef, peu importe qu'il soit par intérim sur une base, disons, moyen terme, ou redevenir après ce mandat intérimaire comme entraîneur-chef du Canadien pour la prochaine saison et les suivantes. Et je sais qu'il a été très patient. Ça a été long avant d'avoir une chance comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Alors, je me réjouis de le voir enfin d'avoir sa chance. Là, il était plus vu que dû.
OK. Alors, on veut mettre ça de côté. Je suis convaincu que nos collègues, tout à l'heure, Patrick Lagacé, va nous parler de tout ça. Parle-moi donc de Georges Vézina, L'habitant silencieux, un livre que tu lances aujourd'hui.
Ben écoute, c'est un super projet. D'abord, c'est la démarche d'une quinzaine d'années de lecture, de recherche sur l'histoire du hockey, sur l'histoire du Québec aussi, parce que le livre, oui, bien entendu, s'adresse aux morts du hockey, aux passionnés de sport, mais s'adresse aussi aux amateurs d'histoire. Pour moi, c'était essentiel, c'était incontournable de faire une place importante à l'histoire du Québec. On revit grâce à Georges Vézina l'histoire du Québec, le parcours des gens de chez nous à travers toutes sortes de thèmes, que ce soit la conscription, la crise de la grippe espagnole, la mortalité infantile. Donc, c'est tous les thèmes, je dirais ça comme ça, des années 10, des années 20, dont on n'a pas beaucoup de souvenirs maintenant, plus de 100 ans plus tard, parce que dans les cours d'histoire, on apprenait la Première Guerre mondiale, puis ces années-là, on dirait que ça tombait dans l'oubli. Alors moi, lorsqu'il y a eu la pandémie, j'ai actualisé toutes les recherches, toutes les lectures que j'avais faites au fil des années, en me disant qu'un jour, peut-être, il y aurait un projet qui me permettrait de parler de ce personnage marquant de l'histoire du Canadien de Montréal.
Ouais. L'habitant, là, ben, l'habitant silencieux. L'habitant, tu fais référence au Habs Go. Ça, il y a toutes sortes d'histoires qui tournent autour de ça. Le Habs, le logo du Canadien, le H au milieu. T'as vraiment les habitants qu'on les appelait?
Oui, vraiment. C'est surtout les Canadiens français qui s'appelaient comme ça entre eux. Dans les journaux francophones de cette époque-là, on désigne le Canadien comme les habitants. Le Habs, ça devient une adaptation anglophone qui vient bien plus tard dans le cas du club de hockey canadien. C'est comme ça que l'équipe s'appelle au début, le club de hockey canadien. Parfois, on lit le Canadien, c'est souvent les Canadiens. Mais c'est une espèce de dérivé un peu du nom de l'équipe. Comme après ça, ça devient les Flying Frenchmen parce que Le Canadien a la réputation d'être une équipe très rapide, qui vole sur la glace tellement il y a des patineurs agiles au sein de l'équipe. Puis après ça, ben, ça devient tricolore, ça devient les Glorieux, ça devient la Sainte-Flanelle. Alors, il y a eu toutes sortes de dérivés de la façon d'appeler l'équipe, mais les habitants, c'est quand même venu assez rapidement. Là. Je pense que c'est autour de 1913-1914 que la façon d'appeler l'équipe via l'appellation canadien-français de l'époque là, fait son apparition dans les journaux.
Écoute, j'ai googlé son nom. Georges Vézina, un gardien de but, était habillé à l'époque, je veux dire, ça prenait une dose de courage impressionnante pour garder les buts à cette époque-là avec l'équipement qu'il portait. C'est assez incroyable.
Ah, vraiment. Écoute, il fallait du courage, il fallait de la détermination, puis même une certaine innocence, tu sais, parce que la protection des gardiens, sur ma page couverture, on voit Georges Vézina avec quand même de bonnes jambières, mais ça, c'est à la fin de sa carrière. Quand il commence avec le Canadien en 1910, les petites jambières qui recouvrent ses jambes, c'est à peine plus gros que les jambières que les joueurs portent maintenant. Là.
Non, mais tu sais, Michael, ça n'a aucun rapport avec les jambières qu'ils ont aujourd'hui. Là.
Ben non, c'est, ben non,
c'était une espèce de bout de cuir là, qui était attaché à leurs jambes. Là.
Exactement. Puis ça, c'est la même chose pour les gants. T'sais, maintenant, on a des grosses mitaines, il y a un bouclier. Là, à cette époque-là, c'est pas ça du tout. Là. Ce sont des gants, un peu comme nos gants d'hiver, là, nos gros gants d'hiver. Oui. Et les gardiens n'ont pas le droit de s'agenouiller pour réaliser des arrêts.
Ah.
Puis c'est peut-être presque salutaire dans le sens que sinon, on imagine les nombreuses blessures au visage qui auraient résulté des rondelles qui auraient frappé les gardiens en plein visage. Alors,
parce que le masque est arrivé, Michael, beaucoup plus tard là, avec M. Plante.
Ouais. Oui, exactement. Puis, Georges Vézina a eu des blessures au visage durant sa carrière. D'ailleurs, il y en a question dans le livre. Alors, on parle de ça. On parle de l'évolution du hockey. Au début du siècle, le hockey se joue à 6 joueurs en plus du gardien, donc à 7 plutôt qu'à 6. Après ça, ben, on accompagne Vézina à travers tous les changements de règlement. Hein. On l'accompagne aussi dans les différents voyages. Alors, je raconte ça se passe comment en train. Un peu partout au Canada, lors des voyages des Canadiens, comment ça se passe, les camps d'entraînement, l'entraînement des joueurs, comment on s'entraîne, comment on se prépare pour la saison. Alors, c'est toutes sortes de thèmes et c'est la trame narrative, c'est vraiment l'histoire.
OK.
C'est,
le salaire, est-ce que tu abordes l'histoire des salaires à cette époque-là? Il devait être payé une petite misère?
Ouais, ben il a commencé à 800 $ par saison, puis ce qui était quand même correct parce que le salaire d'un ouvrier, par exemple, là, annuel, c'était 400 $ par année. Alors, lui, il avait 800 $ pour 3 mois. Alors, dans le fond, c'était un privilégié des Canadiens français de l'époque, là, parce qu'à cette époque-là, le hockey était réservé beaucoup aux anglophones. Puis, il termine sa carrière autour de 6 à 7 000 $ par saison, ce qui était très bon.
Merci beaucoup. On lira ça, Michael. À bientôt.
Merci. Bye-bye.
Bye-bye. Michael Lalancette, auteur de la biographie Georges Vézina, L'habitant silencieux. Ça vaut la peine. Googlez ça. Et voir ça qu'à cette époque-là, ça prenait des gens assez courageux pour se placer devant la rondelle. C'est certain que c'était pas le tir de chez Weber, là. C'était bien différent.